Bonjour, nous sommes le vendredi 15 avril 2022. Je suis David Melmans, éditeur aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et aujourd'hui, je reçois Guillaume Chamanidjian et Claire Duvivier, les auteurs du cycle de la Tour de Garde, publié aux éditions Aux Forges de Vulcain. Nous enregistrons à Nantes, où hier nous étions en déplacement, invités par la librairie La Talente. Alors aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des Trois Lucioles, qui sont le deuxième volume de Capitale du Sud, une des deux trilogies qui forment l'ensemble de la Tour de Garde. Et là, ce que vous entendez, c'est les mouvements de stock, parce que le livre marche très très bien, et donc c'est les diables et les palettes qu'on entend passer derrière nous. Voilà, un peu étonnant, mais l'édition, c'est aussi un... C'est aussi du commerce.
C'est un métier manuel, surtout, de beaucoup de manutention.
C'est un métier manuel de beaucoup de manutention. Alors, on entendra un peu Claire, mais on va entendre surtout beaucoup Guillaume. Alors, vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à avoir déjà lu le premier volume, à avoir lu le premier volume de Claire aussi. Citadin de demain, qui a ouvert en octobre dernier la trilogie Capitale du Nord. Mais vous êtes aussi quelques-uns à ne pas les avoir lus encore. Donc, on va essayer de vous faire une émission sans divulgachage et on va quand même demander à Guillaume de nous parler de son premier volume. Que racontait ton premier volume ?
Bien, mon premier volume parlait essentiellement de la ville de Gemina, ville inspirée de la Sienne de la Renaissance, un petit peu de Florence, enfin des cités-états italiennes. Et au sein de Gemina, donc, un commis d'épicerie nommé Nox qui parcourt un petit peu les ruelles pour livrer diverses denrées. Et donc, un jour, alors que son duc le plonge un petit peu malgré lui dans les rouages politiques de sa ville, il tombe sur un livre de poésie dont le rythme et les sujets l'intriguent énormément. Et il se retrouve donc bien malgré lui à devoir faire face à plein de mystères ésotériques qui couvrent au sein de la cité. C'est un livre un petit peu d'aventure, je dirais, avec une part de fantaisie qui reste mineure. Aventure avant tout, on y parle de nourriture, on y parle de mariage gâché, de foule qui se déchaîne, et de vin, beaucoup de vin.
Alors, attends, l'ordre, là, dans lequel tu le présentes, c'est nourriture, mariage gâché, foule qui se déchaîne.
Oui.
Donc, c'est quoi les liens logiques, là ?
Là-dedans, il n'y a pas de lien logique, ce sont juste des mots jetés en vrac pour faire un petit peu de teasing.
D'accord.
Mais en l'occurrence, on essaye quand même d'avoir quelque chose de cohérent.
D'accord. Moi, un aspect qui m'a frappé de cette grande œuvre qui est très ambitieuse, chaque fois qu'on est en déplacement, les libraires, les bibliothécaires, les lecteurs, les lectrices saluent l'ambition de l'ensemble. En fait, j'aimerais savoir en quoi c'est ambitieux. J'ai toujours un doute, parce que moi je trouve ça ambitieux, mais c'est ambitieux, j'ai l'impression que moi je l'entends dans un sens, il n'est pas le sens des autres. J'entends ça ambitieux, au sens où c'est ambitieux, où ça croit à la fiction. Ce qui n'est pas le cas de tous les romans qu'on peut voir, c'est-à-dire ça croit à la fiction, ça crée un ensemble de personnages, ce qui n'est pas le cas de tous les romans, où parfois un personnage va vraiment écraser tout le récit, ça brasse un très grand nombre de niveaux de lecture. Voilà, ça c'est pour moi, c'est pour cette raison-là que c'est ambitieux. Mais par exemple, hier soir, je me suis rendu compte que certaines des personnes qui étaient avec nous à cette soirée considéraient que c'était ambitieux juste parce que c'était long. C'est-à-dire beaucoup de volume, beaucoup de pages. D'autres que c'était ambitieux parce que c'est plus simple, d'après certains, de sortir un seul volume. Et voilà. Est-ce que vous, quand vous êtes lancé dedans, vous vous êtes dit c'est quand même ambitieux ? Est-ce que vous avez frémi devant l'aventure ? Ou est-ce que vous n'êtes jamais posé la question en ces termes ?
Je dirais qu'on ne s'est jamais posé la question en ces termes parce que finalement, on l'a fait pour s'amuser en fait à la base. Il n'y avait pas d'ambition, il n'y avait même pas d'ambition éditoriale au début, vraiment c'était un jeu entre nous.
Après je pense que l'ambition, on s'en est rendu compte peut-être au moment où on t'a vu, tout simplement pour discuter de comment est-ce que ça allait s'articuler d'un point de vue éditorial. La réalité c'est qu'en fait effectivement oui, je pense que les gens ont raison, c'est un projet ambitieux d'un point de vue auteur, parce que nous, ça demande beaucoup de concertation. Alors évidemment, pour nous, c'est facile, on se voit tout le temps, mais ça demande énormément de concertation, c'est du travail en commun. Donc, c'est du travail, alors qu'on a tendance à s'imaginer dans l'imaginaire collectif que l'auteur ne travaille pas. Je pense qu'il y a un petit peu de ça, ce qui est faux. Hein. L'auteur est un gros travailleur, je pense, d'une manière générale, sinon il ne serait pas auteur. Et après, l'ambition, elle est éditoriale aussi, parce que ça reste quand même 6 volumes complets dont il faut finir par accoucher à un moment ou à un autre.
Alors, en fait, il faut voir qu'on est dans un hôtel où il y a un énorme concert de U2 qui se prépare, et donc il y a une trentaine de roadies qui font du bruit derrière nous, voilà. Mais vous en faites pas, tout va bien se passer. Pour revenir sur la notion d'ambition, ce qui est particulier aussi, c'est que moi, en tant qu'éditeur, comme Les Forges sont une maison indépendante, je sais que même si on fait des efforts pour parler à la presse, parler à beaucoup de libraires, là où on a vraiment une force à jouer, c'est plus sur le travail éditorial. C'est-à-dire encourager les auteurs, les autrices à aller le plus loin possible dans leur travail, et parce que ça dépend de nous. Et qu'il y a des choses, que la sagesse, ça consiste souvent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est que les auteurs fassent les meilleurs textes possibles. En fait, là, on est à l'orée de la tournée des Trois Lucioles. Donc, c'est une tournée où tous les deux, vous allez faire plein de rencontres en librairie. Et c'est assez frappant de se dire que dans la fantasy, il y a souvent une dimension épique dans la fantasy, et que une tournée, je me rends compte que ça va être épique, surtout pour vous. Moi, j'ai fait qu'une date et je suis déjà fatigué. Et vous allez en faire une quarantaine.
Merci de le rappeler.
C'est ça. Il n'y a pas de dragon à battre non plus. Non, c'est quand même plutôt sympathique.
Oui, c'est vrai. Mais là, ce matin, je voyais que un réseau de libraires avait classé votre texte comme un texte de fantasy épique. Parce qu'ils faisaient une sélection fantasy épique. Je sais que les auteurs-autrices ne raisonnent pas toujours en genre quand ils écrivent. Ils écrivent suivant leurs caprices. Mais est-ce que cette caractérisation, c'est une caractérisation qui fait sens pour vous? En fait, bon, non, je ne vous dis pas ce que je pense de cette caractérisation, mais voilà.
Moi, je répondrais à la même chose qu'à l'époque d'Allons Voyage. Je pense que ce type d'étiquette, si ça aide les libraires, les lecteurs, les bibliothécaires, c'est très bien. Moi, effectivement, en tant qu'autrice, je raisonne pas en termes de catégorisation. Donc, épique, bah, pourquoi pas. Enfin, je pense que si la personne l'a perçu comme ça, c'est très bien. Enfin, vraiment, moi, ça me dérange pas. Mais effectivement, j'essaie pas de... Enfin, dans la conception des romans, je pars pas du genre dans lequel il va être classé pour écrire. Vraiment, je pars de l'intrigue, je pars des personnages, et effectivement, pour moi, ces classifications, c'est pas à moi de les imposer ou d'avoir un droit de regard dessus.
Tout à fait. Moi, je pense effectivement, comme Claire, ces classifications, elles sont nécessaires pour mettre un roman quelque part dans une librairie. Mais nous, on n'en est pas. On n'a pas finalement notre mot à dire dessus, en réalité. Tout ce qu'on doit faire, c'est continuer à écrire, et puis ça changera rien, entre guillemets, à ce qu'on va écrire. Fait de savoir que les tomes 1 sont classés en fantasy épique. Hein.
Pour moi, effectivement, les classifications en genre, c'est l'heure de la réception. De plus en plus, ça a tendance à être de l'ordre de la production. Et je pense que c'est un peu un problème, en fait, de partir du principe que j'ai publié un roman qui sera quelque chose, quelque chose. Pour moi, c'est vraiment de la réception, la classification.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que je pense que ça fait remonter dans la chaîne des contraintes en décalant ce qui dépend de l'auteur et ce qui ne dépend pas de l'auteur. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que les classifications, c'est plus en aval, et les faire remonter, c'est une sorte de hubris de croire qu'on va, au niveau de la production, contrôler plus, sauf que c'est le mauvais côté du contrôle, c'est-à-dire on peut assécher beaucoup la créativité d'un texte. Et moi, justement, même en termes de classification, je pense que la classification, elle est utile pour faire exister dans l'immédiat le texte, mais je pense que sur le long terme, les bons textes font toujours complètement exploser les classifications. Et pour moi, en fait, et là je parle plus de la classification librairie, mais même du genre littéraire tel que on parle d'épique depuis 2800 ans, pour moi, c'est pas tout. Il y a des dimensions épiques dans vos textes. Il y en a peut-être un poil plus, je dirais, en termes de générique dans Trois Lucioles que dans Citadin de demain. Mais à proprement parler, c'est pas tellement des récits épiques, puisque les récits épiques sont souvent des récits de conquête et de bataille. Et en fait, vous êtes dans des récits où il n'y a pas encore de conquête et de bataille. Alors, est-ce qu'on aura des conquêtes ? Est-ce qu'il y a des conquêtes et batailles dans Trois Lucioles ? Ça spoile pas.
Dans Trois Lucioles, je dirais non. Après, bon, il n'y a pas de bataille. Je réfléchis, je me remets mort le texte. Non, il n'y a pas
vraiment de bataille. Et des émeutes urbaines.
Voilà.
On était déjà prévu qu'il y en aurait. Donc.
Voilà, c'est ça. Après, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas dans l'avenir, mais elles sont de toute façon pas traitées comme la bataille du gouffre de l'Helme dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas le côté on vient conquérir un territoire pour agrandir une influence. Le premier moteur, entre guillemets, de Capitale du Sud comme de Capitale du Nord, ça reste le moteur humain. C'est-à-dire, on parle de personnages avant tout.
Alors ça, vous l'avez mentionné hier dans la rencontre à l'Atalante, et je me suis privé de faire une intervention que je fais dans toutes les rencontres où je rappelle une œuvre que j'adore personnellement, qui est Battlestar Galactica, dont je crois que vous n'êtes pas particulièrement fan.
Moi j'aime beaucoup, si. Moi. C'est Guillaume qui n'aime pas trop.
C'est moi qui ai du mal avec le côté ésotérique de Battlestar Galactica.
Alors non, mais tout à l'heure, quand tu as parlé d'ésotérisme, ouais, j'ai tiqué, parce que dans le catalogue des Forges, il n'y a pas d'ésotérisme. Il y a, si moi j'étais moi président, on interdirait les médecines douces et l'ésotérisme. Voilà. Et le rayon vente de pierre dans certaines librairies. Voilà. Mais Battlestar Galactica, pour moi, la qualité, alors je suis d'accord avec toi sur la partie ésotérique qui me crispe, mais c'est que c'est les personnages qui sont moteurs du récit, c'est-à-dire que même s'il y a un concept, tout comme dans votre roman, il y a un double concept très très fort, on conserve cette idée que c'est les personnages qui sont moteurs de l'histoire. Est-ce que les personnages sont moteurs de l'histoire dans vos textes ?
Oui. Et on a fait en sorte que ce ne soit pas seulement les personnages narrateurs, mais que ce soit tous les personnages. Tous les personnages secondaires, tous ceux qui... on n'est pas sur un schéma où c'est le héros qui avance au milieu de tout. On est sur un schéma où chaque personnage a un petit peu ses propres enjeux. Et l'histoire avance en les cumulant, en les confrontant.
Ouais, l'idée, c'était vraiment que tout ne tourne pas autour du personnage principal. Le personnage principal n'est pas le centre de son monde, et effectivement, le fait même que ce soit un univers partagé et que l'histoire soit vue de deux angles différents, nord et sud, ça va aussi dans le sens de cette conception du personnage, on va dire.
Tout à fait. Et pour aller même encore plus loin sur la partie capitale du sud, le narrateur est lui-même conteur, et on peut se dire aussi que finalement, il ne fait que conter l'histoire des autres et quelque part la sienne, mais presque par accident.
Mais c'est vrai que, pour moi, c'est une sorte de rupture avec une partie de la fantasy qui est très marquée par le monomythe de Campbell avec cette odyssée individuelle. Et en fait, ce qui est sous-jacent dans l'odyssée individuelle de Campbell, c'est une manière de dire à l'individu « tu peux changer ta vie, tu peux changer le monde », ce qui à la fois est un message entre guillemets positif, mais qui est très souvent néfaste, parce que ça donne l'impression aux individus qu'ils n'ont pas besoin de s'engager dans des luttes collectives. Et ce qui est intéressant, un des multiples aspects passionnants de vos romans, c'est de montrer que tout changement, si le changement est possible, ne se fait que par l'odyssée collective et par l'interaction des individus. Et je me demandais justement, sans trop dévoiler l'intrigue du deuxième volume de Trois Lucioles, si dans Trois Lucioles, il n'y a pas un moment une sorte de tentation de Venise. C'est-à-dire, la tentation de Venise, c'est ce qu'on dit quand un personnage qui est appelé à une grande destinée se dit « j'en ai... en fait non, je pars à la campagne, je pars à Venise, j'abandonne tout » et finalement l'histoire le rattrape. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais raconter
Il y a une tentation de Venise, et en fait, effectivement, et c'est complètement conscient de ma part, entre guillemets, de dire il y a cette espèce de côté, mais en n'oubliant pas que, oui, comme tu dis, on n'est pas sur un monomythe. Donc il y a cette tentation de Venise, elle est d'ailleurs très, très marquée dans le roman, Mais il y a un moment aussi où on se rend compte que ce personnage dont on s'imagine qu'il est le héros, en fait, il n'est pas le héros de cette histoire. Donc, bien qu'il fuit, entre guillemets, l'histoire le rattrape, mais pas le rattrape lui directement, elle rattrape quelqu'un d'autre. Et c'est en suivant cette personne, finalement, que l'histoire continue. Et c'était ce que je voulais, cette espèce de côté où Knox reste avant tout, enfin, il est acteur évidemment de sa propre histoire, mais il est spectateur et conteur de la grande histoire.
Mais justement, c'est-à-dire que on est dans l'Odyssée collective, il y a un écho quand même avec certaines formes de récits épiques, sachant que le récit épique est toujours une forme de récit guerrier. Dans vos récits, alors peut-être plus dans Capitale du Sud que dans Capitale du Nord, il y a une dimension de, entre guillemets, de guerre, mais qui vient par la guerre civile. Et donc, la guerre civile, ça nous amène à des considérations très politiques. Et après tout, politique, ça vient de police, la cité. Voilà. Est-ce que vos romans sont des romans politiques et en quel sens?
Je vois Claire siffloter dans un coin. C'est
Je tiens à dire que Claire Duvier est partie.
Ah, c'est politique dans le sens où tout est politique. Mais on voulait pas en faire des manifestes. Hein. C'est pas l'objet. Maintenant, c'est politique parce que tout simplement, on est face à des jeunes gens, que ce soit dans Capitale du Nord ou Capitale du Sud, qui sont confrontés à l'effondrement de leur monde. Donc, qu'à un moment, il faut réagir. Et donc, du coup, c'est politique en ce sens. Il faut juste réinventer le monde et la cité. Si tu veux ajouter quelque chose. Hein.
Alors, je précise que ça fait des mois que je harcèle les auteurs sur ça, et je tiens à signaler leur extrême élégance, humilité et intelligence qui consiste à rester des écrivains et à considérer qu'il ne faut pas qu'un discours extérieur soit plaqué sur leur œuvre et que se substitue à l'œuvre, au plaisir de lecture. Et voilà, je précise que c'est aussi une position qu'avait Tolkien, voilà, qui a passé la majeure partie de sa carrière publique à interdire les interprétations politiques de son œuvre, même s'il y a bien des choses conscientes politiquement chez lui. Alors, conscientes, je précise, c'est que par exemple, comme c'était un survivant des tranchées qui fait un peu partie de la génération sacrifiée, il y a toute une dimension de l'amitié comme étant le ferment de l'aventure collective. Voilà. Mais en dehors de ça, je pense que c'est le seul aspect politique, entre guillemets, que beaucoup de gens ne qualifieraient pas de politique, mais infra-politique, que Tolkien a reconnu. Voilà. Le reste, il a toujours été contre.
Mais je voudrais dire qu'effectivement, souvent, quand on parle de politique en fantasy, on parle d'intrigue politique. Effectivement, souvent, quand les gens disent j'ai bien aimé l'aspect politique de ce roman, on parle vraiment d'intrigue et d'intrication politique, d'espionnage, d'alliance, de traîtrise, de choses comme ça. Là, effectivement, la question porte plus sur la politique au sens où on l'entend dans le monde contemporain, on va dire, ou dans l'actualité. Alors voilà, c'était pas volontaire, ce sont des choses qui arrivent, mais effectivement, je pense que Trois Lucioles sort dans un contexte particulier, sans entrer dans les détails. Et effectivement, Trois Lucioles peut offrir pas mal de résonance avec ce contexte. Dans ce sens-là, oui, Trois Lucioles, je pense, est plus politique que Le Sang de la Cité. Mais ce n'est pas la seule grille de lecture qu'il faut avoir. Il faut savoir qu'il a été écrit il y a plusieurs années. Et voilà quoi. Mais voilà, je pense que certaines personnes qui lisent en ce moment Trois Lucioles vont effectivement y voir des tonalités, on va dire peut-être sans aller jusqu'à engager, effectivement, qu'il y a un discours politique, quoi.
Oui, mais d'ailleurs, c'est ça le. C'est pour ça que c'est intéressant de garder à l'esprit que l'intention première n'est pas politique, parce que généralement, les romans dont l'intention première est politique vont avoir tendance à s'essouffler avec le temps, alors que justement, vos romans sont des miroirs, et ça rappelle que la lecture, l'expérience de lecture, c'est toujours une coproduction entre les propriétés réelles du texte et le moment où il est lu par la personne qui l'a lu, le contexte de sa lecture. Et c'est vrai que le contexte actuel est particulier, mais je pense que quand on le lira dans 10 ans, l'expérience de lecture sera différente et le livre montrera un autre de ses aspects. C'est aussi la très grande richesse de vos romans, c'est les niveaux multiples de lecture. Ce qu'on a vu d'ailleurs quand on a vu la diversité des gens qui aiment vos romans. Alors, on peut pas encore beaucoup parler de la réception de Trois Lucioles. Alors, très rapidement, si, parce que Trois Lucioles, il y a des gens qui l'ont reçu 10 jours avant la sortie, Ils l'ont adoré, ils l'ont dit de manière très spectaculaire, donc c'était très touchant. Mais ils ne sont pas très nombreux parce qu'on ne l'a pas envoyé non plus à 3000 personnes. Ce qui est important, c'est que ce soit les lecteurs qui les lisent et pas les lecteurs, entre guillemets, professionnels ou seulement avertis. Mais on peut parler quand même un petit peu à partir de ce moment-là de la réception de l'œuvre. Guillaume, parle-moi de la réception de Capitale du Sud.
De Trois Lucioles particulièrement ou de la totalité ?
La totalité. Hein.
Alors moi j'ai été surpris et absolument ravi déjà par la réception du Sang de la Cité, qui était quand même, je le rappelle, mon premier roman. Donc évidemment avec tout ce que ça implique de stress de ma part sur le côté, c'était avec ce côté où pendant un an ou deux on travaille tout seul dans son coin, alors pas tout seul parce que j'avais Claire avec moi, mais c'est toujours difficile de se dire comment est-ce que ça va être accueilli par le public. La réception a été, je dirais, assez folle, il n'y a pas d'autre mot. C'était même magique de voir que on avait des lecteurs qui étaient des lecteurs extrêmement avertis et qui allaient chercher dans le texte, qui allaient creuser pour trouver des intrications sur, enfin des explications du texte, et puis tout autant que des gens qui voyaient le côté aventure, appel de l'aventure, narration, qui était effectivement un point fort. Donc moi je voulais qu'il y ait ces deux niveaux de lecture qui émerge, et le fait que ça ait fonctionné aussi bien sur tous les publics, ça a été un vrai bonheur pour moi, et d'autant plus un stress parce que forcément quand le tome 2 est paru, je me disais mais est-ce que je vais arriver à reproduire cet engouement qu'il y a eu il y a un an maintenant sur le tome 1. Et aujourd'hui, en tout cas, les tout premiers retours de lecture qu'on peut avoir, comme disait David, il n'y en a pas énormément. Aujourd'hui, les tout premiers retours de lecture qu'il peut y avoir sont également excellents. Donc, je m'accroche.
Oui, parce qu'en fait, on parle d'une aventure collective dans le texte, mais c'est vrai que c'est cette aventure collective, alors d'abord de vous deux, et après avec des lecteurs et lectrices qui vous suivent et qui veulent vous aider à amener le plus loin possible ces livres. Alors l'amener le plus loin possible par son nombre de lecteurs et de lectrices, l'amener le plus loin possible aussi par les voyages que vous allez faire, voilà. Est-ce que tout à l'heure vous partez pour Bruxelles par exemple, puis après par Mons
après international.
Voilà, c'est ça. Ah oui, là, c'est un vrai world tour. Oui, il y a une sorte d'implication collective. Alors, pour donner un petit avant-goût de la prochaine étape de l'implication collective, on prépare la sortie en octobre du deuxième volume de Capitale du Nord. Les lecteurs sont sortis émerveillés et traumatisés par Capitale du Nord. D'une part, est-ce que tu savais que tu allais traumatiser des gens avec la fin de Citadin de demain?
Alors, j'aurais pas dit traumatiser, mais effectivement, oui. Dans la mesure où on avait un peu opté pour une parution sur le mode du feuilleton, pour moi, il n'y a rien qui va plus avec le feuilleton que le cliffhanger, quoi. Ouais. Voilà, donc je pense que voilà, c'est pas spoilé de dire que le premier tome se termine sur un cliffhanger qui en a fort marré certains.
Oui. Et le prochain volume s'appelle comment ?
Mort au jet.
Et alors, comme tu as parlé de romans feuilletons, ce qu'on a eu l'occasion de rappeler hier à la rencontre à la Talente, c'est que parmi vos très très nombreuses références de lecteurs et lectrices, il y a vos lectures, il y a les jeux vidéo, il y a le jeu de rôle, et en fait on a un tout petit peu parlé effectivement de deux caractéristiques que le projet a emprunté aux comics américains, qui est à la fois la notion d'univers partagé et la notion de roman feuilleton, parce que vos romans sont des participants, c'est une sorte de très grand roman feuilleton. Pourquoi la forme du roman feuilleton?
Justement, ça va bien avec l'univers partagé. Je pense que c'est deux formes qui vont bien ensemble. Tu l'avais souligné à la soirée d'hier, effectivement, le comics, c'est la lecture feuilletonnée. Parce que c'est, on a un certain nombre de pages, tous les 15 jours ou 3 semaines. Une fois que c'est fini, il faut attendre la suite. ça joue aussi un peu cette frustration, puis la nécessité du coup d'avoir un cliffhanger pour maintenir l'attention du lecteur. Je pense que là, dans la mesure où on avait quand même une grande masse de textes, de toute façon, on était amené à la découper en volume et jouer aussi de ce découpage en volume pour que chaque volume ait sa dynamique propre. À partir de ce moment-là, la question de la fréquence de publication et de l'alternance éventuelle des tomes se posait. Donc, à partir du moment où on a mis le pied là-dedans, autant jouer à fond le côté feuilleton en optant pour des intervalles réguliers, pour l'alternance, pour... voilà, mais c'est plus la... On va dire le fond qui a poussé à la forme.
Qui a poussé en fait, à finalement. La forme, oui.
L'idée n'était pas de faire un feuilleton à la base, en tout cas.
Oui, et d'ailleurs, après, c'est un de mes chevaux de bataille comme éditeur, c'est que je pense qu'un roman devient un vrai bon roman et une vraie œuvre littéraire marquante quand elle a un fond forme. C'est-à-dire que quand son propos, son thème, est reflété par sa forme et sa forme est reflétée par son propos. Et donc là, on est dans une grande odyssée collective, avec une dimension politique, avec une dimension humaine très très forte. Et ça s'appelle le cycle de la tour de garde. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très beau voyage, une très belle tournée. C'était donc les éditions Forge de Vulcain, avec Claire Duvivier, Guillaume Chamanidjian, à l'occasion de la sortie de Trois Lucioles, le deuxième volume de Capitale du Sud, une des deux trilogies du cycle de la Tour de Garde. Merci.